Et il est avec nous ces dernières semaines pour parler de NFL alors que les camps d'entraînement sont en cours. C'est Jean-François Maltais qui est là ce matin. Bon matin, JF, comment tu vas?
Ouais, salut Jasmin, très bien, merci. Et toi?
Est-ce que ça te fait autant du bien d'entendre ce thème-là? On dirait que ça me donne un petit frisson dans le dos. Là. J'ai l'impression que la saison commence demain. Là.
Ah, plus ça va, plus ça devient excitant, effectivement. Je t'entendais tantôt avant la pause. Alors, un coup que les camps sont commencés, il y aura de l'action dès cette semaine. On va en reparler sûrement jeudi. Mais oui, effectivement, là, ça s'en vient à grands pas.
Ben, c'est le fun d'avoir du concret un peu, parce que là, ouais. On peut parler, il y a des blessures, il y a des choses qui se passent au camp d'entraînement, il y a des luttes à suivre en particulier. La NFL, on le sait, JF, on en parle 12 mois par année. En fait, aux États-Unis, ils en parlent 12 mois par année dans toutes les émissions de télévision. Mais là, quand l'écart commence, c'est qu'après à peu près 6 mois à parler de choses qui ne sont pas sur le terrain comme tel, mais qui sont de la prévision, là, on commence à avoir du terrain, là.
Ben, exactement. Écoute, comme tu le dis, surtout durant, tu sais, moi je dirais, il y a quand même du concret durant la première partie de la saison morte. Alors, ça va rapidement. Le Super Bowl termine tout de suite après. On a le combine, on a les joueurs autonomes, les transactions. Par la suite, on se prépare pour le repêchage. Donc, il y a beaucoup d'analyse là-dessus. Mais après le repêchage, là, on tombe, comme tu dis, ça continue d'en parler, mais là, on tombe dans de l'analyse, de la suranalyse, puis on analyse l'analyse qu'on a faite hier. Alors là, on commence à... Moi, je trouve que là, je décroche des fois un petit peu. Il y a quelques actualités, mais c'est assez tranquille. C'est le fun de revenir avec du concret, parce que certains analystes, là, des fois, se perdent un petit peu dans les... Je les blâme pas, parce qu'eux autres, ils doivent trouver du contenu là en continu, mais ouais. À un moment donné, le rendu fin juin, début juillet, là, on n'a pas grand-chose se mettre sous la dent. Encore des fois des disputes contractuelles, il y a ça qu'on peut parler, mais là, c'est en train pas mal de tout se régler. Alors, tu parlais de blessures tantôt. Ça, c'est le côté moins le fun, parce que il y a toujours la fine ligne entre avoir une bonne préparation puis pas trop prendre de risques. Parce que le football étant un sport extrêmement physique, écoute, à un moment donné, t'as pas le choix, il faut que quand même que tu te mettes en, même si les gars sont en forme, là, je dirais 12 mois par année pour la plupart.
Faut que tu te mettes en mode que tu vas jouer des matchs et que tu vas te faire frapper dans quelques semaines. Là. Ben,
exactement. Mais d'un autre côté, on veut pas prendre de risques, là, surtout avec des vétérans. C'est sûr que les jeunes, on a beaucoup de recrues, oui. On met de l'emphase sur le repêchage où est-ce que, bon, il y a 7 rondes, donc, techniquement, les équipes vont prendre 7 joueurs, mais des fois, c'est plus un petit peu avec les transactions, les choix compensatoires. Mais tu as également un 15 à 20 agents libres non repêchés qui se présentent au camp, qui sont des joueurs de qualité qui évoluaient dans la NCAA, première division, qui étaient des partants, souvent qui étaient sur des équipes d'étoiles, et on se présente. Et ces gars-là doivent se prouver, on doit regarder qu'est-ce qu'il y a. Donc là, tu sais, ça va quand même de façon très intense. Et veut pas, ben, il arrive ce qui arrive. Et puis, on a quand même des blessures à certains joueurs importants. Ben. Alors, ça, c'est le côté moins plaisant.
Parlons-en un peu de blessures, là, puis on s'adresse peut-être à des gens qui suivent pas la NFL de très près, mais il y a certains gros noms qui se sont blessés dans les derniers jours, dans les dernières heures. Dans les dernières heures, Tyler Guyton avec les Cowboys de Dallas, plaqueur à gauche, un joueur de deuxième année qui était recrue l'an dernier, qui a eu une saison un peu difficile avec les Cowboys de Dallas. Lui est blessé pour 4 à 6 semaines. Darnell Mooney, un excellent receveur des Falcons, le premier ou le deuxième, dépendant comment on voit ça, avec Drake London. Et Terry McLaurin, qui s'est rapporté aux Commanders après un peu de dispute contractuelle. Il s'est rapporté, mais il ne peut pas pratiquer, il est blessé lui aussi. Alors ça en fait quelques-uns quand même à travers la NFL.
Oui, ben exactement. Du côté des Cowboys, tu parles de Guyton, effectivement. Et on a créé le pire hier, ce qui circulait. On parlait d'une déchirure au fameux ACL, là, le ligament croisé antérieur. Mais finalement, plus de peur que de mal, c'est quand même une bonne blessure, mais devrait peut-être être à temps pour le premier match de la saison, sinon peut-être le deuxième ou le troisième, mais on a évité le pire dans son cas. Et déjà que, tu sais, on fait une espèce de transition chez les Cowboys, on rajeunit la ligne offensive, et du côté de on a pris une recrue également en première ronde cette année, Tyler Booker, mais c'est Rob Jones, un joueur autonome qu'on est allé chercher en provenance des Dolphins, qui était inscrit comme premier garde là, actuellement dans les pratiques, mais lui s'est blessé au cou cette semaine. Alors Ça va donner une chance à l'autre, mais tu sais, déjà, là, ça part mal. T'as déjà deux joueurs de ligne de blessés chez les Cowboys. Espérons pour eux que ça va s'arrêter là.
Ben, tout à fait. Puis Mooney et McLaurin, on verra pour la gravité de leur blessure. Mooney, c'est quelques semaines possiblement d'absence. Je t'amène, Jean-François, à Cleveland. Ouais. Parce que devine quoi, il y a des problèmes à Cleveland. Je sais pas, il y en a des fans des Browns de Cleveland. Moi, j'en connais deux dans ma vie personnelle. Il y en a un avec qui on travaille à RDS, un de nos réalisateurs sur la NFL, Marc Prévost. Je le salue. C'est un fan des Browns de Cleveland. Et j'en ai un de mes amis dans ma vie aussi qui est fan des Browns. Mais maudit que c'est pas facile d'être fan des Browns de Cleveland. Là, cette fois-ci, c'est Kenny Pickett qui est blessé au tendon d'Achille. Et là, ben, ça ouvre la porte peut-être à ce que ce soit l'éternel Joe Flacco qui soit le quart partant, ou alors ça va être une des deux recrues, le Dylan Gabriel ou Shedeur Sanders, si jamais Pickett ne peut pas commencer la saison.
Hey, ça, ça c'est faut admirer ces gens-là.
Les partisans
des Browns.
Faut les saluer, là.
Parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas beaucoup de plaisir souvent, en tout cas, mais tu sais, c'est une bonne ville de football. Une bonne,
ben alors, oui. Moi, j'ai vu le stade. J'ai jamais vu de match, mais j'ai vu le stade à Cleveland. Il est super bien situé, le stade. Ça semble être un super beau stade sur le bord de l'eau à Cleveland, là.
Ah, vraiment, vraiment, oui, je suis déjà allé, ça fait quand même plusieurs années, mais oui, effectivement, très, très beau stade au centre-ville, juste à côté du Rock and Roll Hall of Fame.
Exact.
Effectivement, c'est un bel endroit. Mais pour revenir à ce que tu disais, écoute, là, Kenny Pickett, on n'a pas encore de détails sur cette blessure-là. Le tendon d'Achille, ça sent jamais bon, malheureusement. Mais écoute, est-ce qu'on a invité le plus? On en saura plus, je présume, dans les prochains jours. Mais je vois pas qui d'autre que Joe Flacco pourrait amorcer la saison. Ce serait beaucoup trop demandé, selon moi, d'y aller avec un Dylan Gabriel ou un Shedeur Sanders qu'on a pris en quatrième et en cinquième ronde, même qu'on avait quelqu'un de trop. Si Pickett, la blessure n'est pas trop sérieuse, je pourrais même m'attendre, moi, à avoir une transaction, là, parce que c'est très, très, très rare. On ne voit jamais ça. Une équipe garder quatre corps arrière sur la formation des 53, parce qu'à un moment donné, ça prend de la profondeur à d'autres positions. Et on n'en verra pas non plus un joueur sur lequel on a donné un choix au repêchage, tu sais, sur le ballottage, parce qu'il va être assurément réclamé. Donc, ce serait un choix carrément gaspillé. Alors, tu sais,
Flacco, il n'y a rien d'impossible avec les Browns, ceci étant?
Oui, effectivement, mais tu sais, si on veut, tu sais, et justement, si on veut regarder ce qu'on a dans ces deux jeunes-là, les tirer dans la gueule du loup comme ça au match 1 de la saison, moi, je pense que ça serait du suicide, alors que Joe Flacco, tu sais, demeure quand même un vétéran qui a beaucoup d'expérience, et tu l'installes dans le système offensif, tu vas comprendre, c'est compliqué, là, le système offensif de la NFL, souvent dans la NCAA, on va jouer des offensives des fois beaucoup moins complexes, avec seulement une lecture, des fois deux lectures dans la NFL. Tu peux aller souvent être à troisième, quatrième et même cinquième progression. Alors, tu sais, avant de jeter un jeune comme ça dans la gueule du loup, je pense qu'il faut leur donner du temps. Et Joe Flacco, lui, on sait qu'il est prêt. Est-ce que ça va être extraordinaire? Non. Mais on peut quand même insérer ce gars-là. Là, on aurait eu une belle lutte là avec Pickett, effectivement. Comme je le dis, on va attendre de voir les nouvelles, mais je vois pas comment ça pourrait être quelqu'un d'autre que Joe Flacco, si effectivement Pickett est blessé pour plusieurs semaines.
Jeudi, on aura peut-être l'occasion, toi et moi, de revenir sur certaines luttes à suivre ailleurs dans la NFL au poste de quart, parce qu'il y a quand même quelques équipes que c'est pas réglé, à savoir qui va être le quart partant au début du mois de septembre, au début de la saison. Les premiers matchs pré-saison vont commencer dans les prochains jours aussi, alors ça va nous donner un peu de matériel à analyser. Je veux terminer avec toi, Jean-François, sur des prolongations de contrats qui ont été signées dans les dernières heures. Beaucoup d'argent ont été accordés à des joueurs. Peut-être que je m'adresse là aux amateurs moyens de la NFL. Évidemment, ceux qui suivent la NFL de proche connaissent ces joueurs, mais certains peut-être les connaîtront moins. Mais un Rashawn Slater avec les Chargers de Los Angeles, un joueur de ligne offensive qui a signé pour 114 millions sur 4 ans. C'est un énorme contrat pour un joueur de ligne offensive. Courtland Sutton avec les Broncos, c'est un vétéran receveur de passe. 92 millions sur 4 ans qui ont été accordés dans les dernières heures. Et même un Jake Ferguson, un ailier rapproché des Cowboys, 4 ans et 52 millions. Est-ce qu'il y a un de ces contrats-là que je viens de te mentionner qui a particulièrement attiré ton attention, soit positivement ou négativement?
Ah, écoute, moi j'aime beaucoup le contrat de. Honnêtement, j'aime ces trois contrats-là. Dans la NFL d'aujourd'hui, lorsqu'on a des joueurs, tu sais, que ce soit élite ou à tout le moins très, très, très solide à une position, on se doit de les payer, on se doit de les garder. On a les moyens de le faire. Mais quand on parle d'un Rashawn Slater, Tu le mentionnes bien, là, les joueurs de ligne offensive, c'est pas les joueurs que les gens, l'amateur, comme dit, moyen connaît le plus, mais ils sont tellement importants. Et là, tu t'assures, avec Rashawn Slater, qui est un bloqueur à gauche de premier ordre, un des 3-4 meilleurs de la NFL, eh bien, lui protège le côté parce qu'il joue à gauche, donc il protège ce qu'on appelle, en anglais, on dit le blind side, le côté caché là, de Justin Herbert, qui lui est droitier, alors ne voit pas l'ailier défensif qui arrive derrière son dos. Alors, ça prend ton meilleur joueur offensif de ligne offensive
comme du côté gauche
dans ce temps-là. Exactement. Donc, Rashawn Slater, on s'assure d'avoir cette fameuse batterie-là entre Slater et Herbert à long terme du côté des Chargers. On n'a pas le choix de garder ce gars-là. Et du côté des deux autres, ben, Courtland Sutton a eu une excellente saison. Tu sais, tu le dis, c'est un vétéran, mais tu sais, il a eu des hauts et des bas, il a été blessé souvent au début de carrière, mais là, avec Bo Nix l'an passé, c'était vraiment son homme de confiance. Il a été excellent. Et là, il était à la dernière année de son contrat. Il l'avait signifié aux Broncos. C'est pas question que je joue sur ma dernière année de contrat. Ce qu'il faut comprendre, des fois, on dit, ouais, ben là, il y avait quand même 16 millions. Mais tu sais, dans la NFL, les carrières peuvent être très courtes. Et du jour au lendemain, avec une grosse blessure, tu peux tomber de top 5-7 à ta position à, tu sais, loin derrière, là, 30-35. 40e, et là, tu perds énormément d'argent. Donc, les gars essaient d'avoir de l'argent garanti, ce qui est normal pour, à tout le moins, là, une à deux saisons supplémentaires, et c'est ce qu'on a fait du côté de Sutton. Et, en terminant rapidement, Ferguson, un ailier rapproché, plus jeune, là, quand même, donc, il arrive à son deuxième contrat, donc bravo, parce que Ferguson est important aussi pour l'attaque des Cowboys, une bonne connexion avec Dak Prescott.
Jean-François, c'est un plaisir de parler de NFL avec toi, j'ai l'impression que je pourrais continuer pendant des heures comme ça, il y a tellement de sujets à travers la NFL. Moi, tu sais, une des choses que j'aime le plus avec la NFL, c'est que c'est infini, les sujets. Ouais. Il y a tellement d'histoires partout, il y a 53 joueurs par équipe, 32 équipes, alors ça va de tous les côtés, comme on dit, on en aurait tellement à décortiquer ensemble. Je te donne le rendez-vous jeudi pour qu'on se fasse une autre chronique NFL ensemble, si ça te va.
Super, Jasmin, à jeudi.
Merci beaucoup, Jean-François.
Bonne journée. Bye.